dans mon jardin d'hiver.
Nous espérons que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à nous donner des idées au 05 49 29 08 18. Je répète, 05 49 29 08 18. Et surtout, portez-vous bien.
Vous êtes sur D4B 90.4 à Mel et 101.4 à Niort. Les infos dans le monde avec Radio France Internationale.
Yahou organisait hier sa primaire à 2 mois des législatives en Israël. Que faut-il en retenir? On appelle notre correspondant à Jérusalem dans un instant. La une, c'est aussi Hakainde Hichilema réélu pour un deuxième mandat en Zambie. Les participants à la COP17 sur la désertification qui veulent mettre à contribution le secteur privé pour restaurer les sols. Et puis, il avait ouvertement critiqué Gianni Infantino. Kevin Lamour, le numéro 3 de la FIFA, limogé de son poste de directeur général des opérations de l'instance du foot mondial.
C'est une chorégraphie millimétrée dont elle a répété les moindres gestes.
Sophie Adno s'apprête donc à devenir la première française à sortir dans l'espace. L'astronaute va quitter la Station Spatiale Internationale pour réparer une antenne de communication défectueuse. Bonjour Baptiste Coulon.
Bonjour à tous.
Vous suivez pour RFI la mission de Sophie Adno. Vous l'avez d'ailleurs rencontrée lors de son entraînement. On imagine, Baptiste, que sortir dans l'espace, c'est le rêve de tout astronaute.
C'est même le Graal, quitter la protection de la station, plonger dans le vide spatial. C'est un moment que les astronautes attendent car tous n'ont pas la chance de réaliser de telles sorties lors de leur mission. Et c'est toujours impressionnant la première fois. Le français Thomas Pesquet le raconte très bien en 2017, invité d'Appel sur l'actualité.
On bascule la tête la première, donc c'est un peu impressionnant. Si c'est de nuit, on voit absolument rien, donc on bascule vers un trou noir, mais c'est pas plus rassurant. En fait, moi je pense que c'est plus rassurant de voir la Terre, parce qu'au moins on a des références visuelles, sinon on a juste nos petites lampes sur le casque qui nous éclairent.
Les petites lampes qui éclairent pendant 5 à 8 heures environ. C'est la durée moyenne des sorties extravéhiculaires.
Et pourquoi c'est aussi long?
Deux raisons. D'abord, l'opération prend du temps. Dans le cas de Sophie Adno, aujourd'hui, il s'agit de remplacer une antenne de communication défectueuse. Elle fait 1,82 m de haut pour 90 kg. C'est un objet volumineux qu'il faut d'abord sécuriser, dévisser, transporter avec le bras robotique de l'ISS et ensuite faire tout l'inverse avec l'antenne de rechange. L'autre raison, c'est le scaphandre des astronautes. Gonflé d'oxygène, sous pression, très rigide, il complique leur mobilité. Chaque mouvement est une épreuve physique.
Et comment donc les astronautes se préparent à ce type de sortie?
Alors ça commence sur Terre. Avant de décoller, ils s'exercent en piscine pour simuler la pesanteur de l'espace. Répètent chaque geste encore et encore pour les reproduire parfaitement le jour J dans une chorégraphie, un ballet qui ne laisse aucune place à l'improvisation, explique Hervé Stévenin. Il forme les astronautes européens aux sorties extravéhiculaires.
Ils savent sur quelle main courante ils doivent s'attacher, le nombre de trous de vis qu'ils doivent donner avec la visseuse ou pour fixer un boulon. Tout ça est extrêmement bien détaillé dans une procédure qui peut avoir plus de 200 étapes. Ce sont de longues journées de préparation pour y arriver.
Et puis il faut aussi préparer le corps, mais surtout le cerveau de l'astronaute. Le convaincre que l'on ne va pas faire une chute de 400 km en sortant de la station. Pour cela, les entraînements intègrent depuis peu des casques de réalité virtuelle qui reproduisent les images de la station et de la Terre, explique Hervé Stévenin.
On a particulièrement entraîné Sophie à sortir du sas, à se déplacer à des endroits différents pour qu'elle puisse avoir cette sensation visuelle. Et pendant qu'elle était à l'entraînement, elle n'avait pas les pieds qui touchaient le sol. J'espère que cet entraînement-là, cette mémorisation préalable, lui permettra d'être moins impressionnée et plus à l'aise dès le départ.
Pour se faire une idée, rendez-vous à partir de 12h30, temps universel, sur le site internet de la NASA qui retransmettra en direct et en vidéo l'événement.
Et le rendez-vous est pris. Merci Baptiste Coulon pour le dossier de ce journal. L'interview complète d'Hervé Stévenin est à lire sur le site et l'application de RFI.
Dans le reste de l'actualité de ce mardi, les partisans de Benjamin Netanyahou votaient hier en Israël.
Pour la primaire du Likoud, le parti du Premier ministre, 140 000 adhérents appelés à recomposer la liste à 2 mois des législatives. Bonjour Michel Paul.
Bonjour Arthur, bonjour à tous.
En ligne avec nous de Jérusalem, le dépouillement s'est poursuivi jusqu'au petit matin. C'était un scrutin à haut risque pour le Premier ministre qui fait face à la perspective d'un recul au Parlement. Plusieurs figures politiques risquaient aussi l'éviction.
Oui, mission accomplie ou presque pour Benjamin Netanyahu. Au final, le Premier ministre israélien semble avoir réussi son coup de balai politique. Alors il faut dire qu'en compagnie de son fils Yair, il n'a pas ménagé les efforts en coulisses pour purger la liste de son parti de plusieurs figures devenues encombrantes. Résultat, ce matin, plusieurs ministres et députés sortants sont relégués hors des places éligibles, à l'image d'Idit Silman, David Dirter ou de la turbulente Tali Gottlieb, lourdement sanctionnée. Mais surtout, Netanyahou consolide son socle dur. Les piliers du camp réformateur restent solidement ancrés aux avant-postes. Eli Cohen, le ministre de l'Énergie, Amir Ohana, le président du Parlement, et l'incontournable ministre de la Justice, Yariv Levin, conforté dans le trio de tête pour poursuivre la très controversée réforme judiciaire. Grâce à la percée de fidèles et à ses nombreux quotas réservés dans les premiers 30 sièges, le Benjamin Netanyahu verrouille ainsi un groupe parlementaire taillé sur mesure, plus docile et prêt pour la bataille électorale. Cela alors que les sondages ne sont pas favorables pour son parti et à un moment où de fortes pressions américaines sont exercées sur Israël, notamment sur le dossier de Gaza.
Michel Paul en direct de Jérusalem et sur ce dossier de Gaza, justement, Benjamin Netanyahou recevait hier Jared Kushner. L'émissaire américain dit s'attendre à ce que le désarmement du Hamas débute d'ici 30 jours. Mais le Premier ministre israélien a lui été catégorique. L'armée israélienne ne se retirera de Gaza qu'une fois que le mouvement islamiste palestinien aura été complètement désarmé.
Alors, si on votera donc le 27 octobre pour la législative en Israël, eh bien on votait jeudi dernier en Zambie. Mais là pour la présidentielle.
Dont on connaît désormais les résultats, Hakainde Hichilema a été réélu dès le premier tour, 60% contre 38% pour son principal opposant Brian Mundubile. Sofiane Amazian.
Le résultat ne faisait guère de doute à mesure que les bulletins étaient dépouillés. Hakainde Hichilema, président de la Zambie, va entamer officiellement un deuxième mandat avec l'ambition de poursuivre le redressement économique du pays. Inflation en baisse, réserve de change renforcée, 50 000 emplois créés dans la fonction publique, des mesures importantes mises en avant par le camp du président réélu, alors qu'à son arrivée en 2021, la Zambie devenait quelques mois plus tôt le premier État africain en défaut de paiement sur sa dette extérieure à la suite de la pandémie de Covid-19, des réformes dont les retombées sont encore trop peu perceptibles par la population. Sur le plan politique, l'opposition a accusé le gouvernement en place d'intimidation, de restrictions et d'arrestations arbitraires. Hakainde Hichilema, qui a fait campagne sur son bilan économique, a donc convaincu une majorité des près de 9 millions de Zambiens appelés aux urnes face à 13 autres candidats. Le plus sérieux, Brian Mundubile, président du parti NRPUP, n'aura pas su inverser la tendance au terme d'une fin de campagne marquée par des violences et l'arrestation de six figures de l'opposition.
Sofiane Amazian, l'actualité africaine ce matin, c'est aussi la lourde condamnation de deux voix critiques de la junte au Mali, Rasbat et Rokia Doumbia, dites Rose Vichère. Tous deux étaient poursuivis pour association de malfaiteurs et atteinte au crédit de l'État. Ils écopent de 10 ans de prison, dont 3 avec sursis.
Lui s'opposait ouvertement à Vladimir Poutine.
Et il était notre invité ce matin. Boris Nadejdine, en exil en France, affirme sur notre antenne qu'il n'est désormais plus possible de critiquer la politique du président russe. Ancien député et candidat à la présidentielle, il a été déclaré le mois dernier agent de l'étranger par le Kremlin. Ces derniers mois, il s'est notamment opposé à la poursuite de la guerre en Ukraine. Sur le front du conflit, justement, le maire de Moscou affirme que plus de 600 drones ukrainiens ont été lancés cette nuit vers la capitale russe. La Moscou a de son côté visé la région de Kharkiv. Il y a au moins 10 morts, annoncent les autorités.
À l'Ukraine, où les députés retrouvent par ailleurs ce matin le chemin de la Rada.
Rentrée parlementaire sous le signe de la discorde, le Parlement pourrait se pencher aujourd'hui sur le remplacement de Mikhailo Fedorov, l'ancien ministre de la Défense, remercié par Volodymyr Zelensky il y a un mois à la faveur d'un remaniement. Une décision qui suscite toujours la colère d'une partie de la population, Muriel Paradon.
Les manifestations de mécontentement ont repris ces derniers jours à Kiev pour réclamer la réintégration de Mikhaïl Fedorov à son poste de ministre de la Défense. Limogé lors d'un remaniement gouvernemental mi-juillet, sans motif officiel, Fedorov défendait à 35 ans une vision plus moderne de la guerre, prônant l'usage de la technologie, notamment des drones, pour éviter les pertes humaines. Après son éviction, il avait accusé le commandant en chef des armées, Oleksandr Sirski, d'avoir poussé le président ukrainien à se séparer de lui. Sirski, partisan d'une approche plus traditionnelle, a finalement été évincé à son tour. Une décision qui a un temps calmé la colère des manifestants. Fedorov est devenu populaire, il a multiplié les interventions dans les médias, faisant savoir qu'il souhaitait retrouver son poste de ministre de la Défense et rejetant toute autre proposition de la part de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien sort fragilisé de cette crise politique après déjà des scandales de corruption dans son entourage ces derniers mois.
Muriel Paradon. 7h10, en temps universel, l'Europe toujours en proie aux incendies.
Même si un peu partout la situation s'améliore, il a plu en Belgique, de quoi aider les pompiers qui luttent contre un feu de forêt à l'est du pays. Les soldats du feu ont stabilisé l'incendie dans le nord de l'Espagne, idem sur l'île grecque de Salamine, près d'Athènes. En France, les mesures de soutien aux régions sinistrées par les flammes pourraient dépasser les 100 millions d'euros.
Alors que pour restaurer les sols à l'échelle de la planète, il faudrait mobiliser 10 fois plus.
1 milliard de dollars par jour. La COP17 sur la désertification s'est ouverte hier en Mongolie. Pour Yasmine Fouad, la secrétaire exécutive de la Convention désertification, qui était de passage à Paris en juin dernier, il faut changer de narratif pour mobiliser les investisseurs privés.
We cannot deal.
On ne peut pas parler de la dégradation des sols, de la sécheresse et de la désertification uniquement comme un problème environnemental. C'est un problème social, économique et une question de sécurité. Ça va faire 10 ans que l'on parle du manque de financement, de subventions, de concessions financières. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut raconter l'histoire. Si la terre nous permet de produire notre alimentation, nos maisons et nous permet de stocker l'eau, ça signifie qu'elle a une valeur, qu'elle est rentable. Et avec cette nouvelle façon de voir les choses, le secteur privé va s'apercevoir que la terre est une opportunité et c'est un bon investissement.
Propos recueillis par Igor Strauss. La présidence sud-coréenne temporise 24 heures après ce camouflet infligé par Donald Trump. Hier, le président américain annonçait réduire la participation de son pays aux exercices militaires avec la Corée du Sud. Trop coûteux, estime le locataire de la Maison-Blanche, qui met aussi en avant ses bonnes relations avec la Corée du Nord. Ces exercices ne visent pas à attaquer la Corée du Nord, dit ce matin Séoul.
La Corée du Sud, dernier allié historique des États-Unis, en date à subir les humeurs de Donald Trump.
Oui, avant Séoul, il y a eu plusieurs pays de l'Union européenne, le Canada aussi. Il ne reste d'ailleurs plus que quelques heures à Ottawa pour échapper aux droits de douane américains. Passé minuit, ce mercredi, plus de 20 milliards de dollars d'exportation canadienne pourraient être frappés de 50% de taxes à l'entrée aux États-Unis. RFI Montréal, Nafia Libert.
Au centre des négociations entre Ottawa et Washington, des milliards de dollars d'exportation, mais aussi quelques bouteilles d'alcool américains, surtout du vin, du whisky et du bourbon, retirés des rayons il y a un an et demi en riposte à Donald Trump, des bouteilles devenues un des symboles de la résistance canadienne que Mark Carney continue d'afficher.
Nous sommes maîtres chez nous.
Washington réclame aujourd'hui leur retour pour avancer vers un accord, et c'est une exigence que le premier ministre canadien essaye de transformer en monnaie d'échange.
Nous sommes en train de négociation d'une position de force.
Sauf que sur l'alcool, Ottawa ne décide pas seul. La vente relève des provinces, rappelle Dia Jiang, chercheuse en sciences politiques.
Même si le gouvernement fédéral arrive à un accord, il ne peut pas forcer les provinces de retirer les règles.
Et chacune réclame d'abord des concessions pour ses propres secteurs stratégiques, l'automobile et l'acier en Ontario, le bois d'œuvre en Colombie-Britannique ou encore le secteur laitier au Québec. Oui, l'alcool est un secteur plus modeste, reconnaît Nicolas Duvernois, producteur québécois de spiritueux, mais pas sans poids, puisqu'en un an, les ventes américaines d'alcool vers le Canada ont chuté de près de 600 millions de dollars.
Donc ça peut être un levier de négociation.
Un levier que Mark Carney tentera encore de faire valoir directement auprès de Donald Trump, qu'il doit joindre avant l'échéance de mercredi. Nafia Libert, Montréal, RFI.
Et puis autre bras de fer sur lequel on s'arrête dans ce journal, celui à la tête de la FIFA, l'instance mondiale du foot dans la tourmente après le projet avorté de Gianni Infantino d'ouvrir le capital à des investisseurs privés. Une voix discordante a été écartée hier. Bonjour Baptiste Leduc.
Bonjour Arthur.
Kevin Lamour, le numéro 3 de la FIFA, a été limogé. Il y a 3 semaines, il avait vivement critiqué son patron.
Et Kevin Lamour l'avait dit au moment de s'opposer à ce projet contesté de société commerciale. Si cela doit me coûter mon poste, qu'il en soit ainsi, eh bien cela n'a pas manqué. La FIFA a confirmé lundi soir la fin de la collaboration entre le directeur général des opérations et l'instance mondiale. Il faut dire que le Français n'avait pas épargné Gianni Infantino dans un communiqué transmis à l'agence Associated Press le 31 juillet. Kevin Lamour ne nommait pas le président de la FIFA, mais critiquait, je cite, le projet d'une seule personne et appelait les dirigeants du monde entier à se poser les bonnes questions. Beaucoup plus virulent que le secrétaire général de la FIFA, le Suédois Mathias Grafström, qui s'est contenté de saluer l'abandon du projet de société commerciale. Kevin Lamour incarnait ce vent de mécontentement au sein de la FIFA. Plusieurs salariés de l'instance ont exprimé leur déception et leur inquiétude face à la tendance de Gianni Infantino d'agir en cavalier seul sur certains dossiers. Kevin Lamour était en poste depuis 2 ans. Il travaillait auparavant pour l'UEFA pendant plus de 15 ans, la Confédération européenne parmi les plus farouches opposants à Gianni Infantino.
Baptiste Leduc du service des sports de RFI.
Et Arthur Ponchelet pour le journal. L'actualité vue par la presse internationale, votre revue de presse Frédéric Couteau avec à la une la colonisation israélienne qui s'intensifie en Cisjordanie occupée.
L'envoyé spécial du quotidien italien La Repubblica nous raconte ses 9 jours de siège dans le village palestinien de Kesra en Cisjordanie occupée. Le 9 août, il y a 9 jours, donc des colons israéliens sont descendus de Tel Talpiot.
9 personnes sur 10 aiment le chocolat. La 10e ment.
D4P.
Bonjour et bienvenue dans la chronique de Tonton JC. Rock, soul, world music, qu'importe le style pourvu que la chanson soit bonne. En 3 titres, je vous raconte les grandes et petites histoires de la rock culture. Aujourd'hui, 1976 sera une année punk. L'été, j'ai décidé de vous faire voyager dans le temps et de faire un bond de 50 ans en arrière en l'an de grâce 1976. Une année charnière et foisonnante dans l'histoire de la pop culture qui marque une certaine apogée dans la diversité des styles issus de l'effervescence née 20 ans auparavant avec l'invention du rock'n'roll. Et aujourd'hui, nous évoquons plus qu'un style musical ou une mode vestimentaire. Le punk, apparu en 1976, est avant tout un formidable espace de liberté et de créativité, et surtout un immense pied de nez adressé à la société et aux stars du monde musical. On parle même souvent de révolution, tant les protagonistes de ce mouvement s'amusaient à détourner des slogans politiques. De fait, l'arrivée du punk a surtout été l'expression d'une jeunesse qui, de New York à Londres ou Paris, ne se reconnaissait pas dans les modèles qui lui étaient proposés et qui avait une envie frénétique de vivre ses propres expériences. Musicalement, le mouvement punk a des racines qui évidemment remontent au-delà, mais puisque pour écrire l'histoire, il faut un point de départ, c'est bien ce premier album des Ramones que nous venons d'écouter qui peut être considéré comme la première pièce de cette entreprise massive de déstabilisation. Ce disque, enregistré par Cat Garnement du Queens, sort le 23 avril 1976 et il démarre sur les chapeaux de roue. Hey ho, let's go! Et en 30 secondes de ce blitzkrieg bop, tout était dit. Voilà enfin un groupe qui ose relever et brandir l'étendard du rock'n'roll, celui des groupes phares des 60s, des Beach Boys aux Rolling Stones, sans oublier les girls groups comme les Shangri-Las ou les pop songs pectoriennes. Des 60s revisités par un véritable mur de guitare sursaturé, tenus bas sur les cuisses comme des mitrailleuses lourdes desquelles giclent des chansons courtes, empreintes de faux crétinisme et d'humour potache. Un album coup de poing, une musique minimaliste et une pochette devenue mythique qui va marquer fortement les jeunes apprentis musiciens qui ne manqueront pas de se dire que si les Ramones l'ont fait, aucune raison qu'eux n'y arrivent pas également.
I saw you standing on the corner, you look so big and fine. I really wanted to go out with you, so when you smiled, I laid my heart on the line.
Les Ramones de 76 sont donc les premiers à poser leur musique sur disque, mais c'est toute une scène qui se presse downtown Manhattan autour de clubs pouilleux, mais qui offre une scène à cette jeunesse émergente. Au Max Kansas ou au CBGB, Outre les Ramones, on retrouve Television, Patti Smith, les Talking Heads ou Blondie que nous venons d'écouter dans le titre qui ouvre leur premier album X-Offender, sorti fin 1976. Des groupes ayant chacun leur personnalité musicale, mais qui se rejoignent dans leur volonté d'assumer une démarche do-it-yourself et une créativité sans entrave. Blondie, c'est le côté power pop de la scène new-yorkaise et son atout charme avec sa chanteuse blonde et sexy. Un groupe qui va ouvrir les portes des charts grâce à ses musiciens très compétents et à la qualité de ses compositions et de ses mélodies accrocheuses. Et très vite, les New-Yorkais vont traverser l'Atlantique pour répandre la bonne parole punk en Angleterre. Le 4 juillet 1976, les États-Unis fêtent le bicentenaire de leur indépendance et de la guerre de libération sur le colon anglais, et c'est la date symbolique que les Ramones ont choisie pour leur premier concert londonien. Ce soir-là, à la Roundhouse, ils se produisent pour la première fois hors des États-Unis, en première partie des Flaming Groovies. 200 ans après s'être libérés de l'Angleterre, les Américains débarquent donc pour apporter une nouvelle révolution sur les terres de l'ancien colon. Environ 2000 fans se pressent ce soir-là, et dans la salle, toute la future avant-garde du punk britannique en prend plein les oreilles et plein les yeux. Les futurs Clash, Pistols et autres Damned sont présents, mais il serait faux de croire que les Ramones débarquent ce soir-là sur un terrain vierge. En fait, depuis quelques mois, la scène anglaise est déjà en pleine ébullition et elle n'attendait qu'une dernière étincelle. Stupidity, un titre live signé Dr. Feelgood, fait office de manifeste pour ce que la critique appellera le pub rock. Un genre apparu au début des années 70 au Royaume-Uni, en réaction directe au rock progressif et au glam rock. Plutôt que les grandes salles et les productions fastueuses, ces groupes privilégient les petits pubs et les clubs enfumés pour un contact direct avec le public et un retour à l'énergie brute du rock'n'roll des origines. Dès 1974, le pub rock devient la scène musicale la plus significative de Londres et chaque pub rivalise pour programmer les figures du mouvement comme Kilburn and the High Road de Ian Dury, Ducks Deluxe, Eddie and the Hot Rods ou les 101ers de Joe Strummer, futur chanteur des Clash. Dr. Feelgood est la tête de gondole du mouvement. Son bouillant Stupidity est classé numéro 1 des ventes au Royaume-Uni. Et son guitariste Wilco Johnson développe un jeu de guitare haché, nerveux, quasi spasmodique, qui va avoir une influence majeure sur les jeunes apprentis guitaristes de la génération punk londonienne. Le terreau londonien est donc fertile et de nombreuses formations fourbissent déjà leurs armes dans les caves de la ville au moment où les Ramones débarquent en Angleterre ce 4 juillet 1976. Et dès la fin de l'été, la scène punk va passer de l'underground à la lumière avec le premier festival punk organisé par le 100 Club sur Oxford Street les 20 et 21 septembre. Environ 600 personnes vont assister aux prestations de groupes qui constitueront le noyau dur de la révolution punk à venir. Sex Pistols, Clash, Subway Sect, Suzy and the Banshees, The Damned, The Vibrators, The Buzzcocks et même le groupe français Stinky Toys avec Ellie et Jacno qui ont été invités par Malcolm McLaren, futur manager des Pistols. L'histoire est donc en marche et elle retiendra que quelques semaines plus tard, ce sont les Damned qui graveront le premier disque de cette scène punk londonienne, le single New Rose que nous écouterons pour conclure cette évocation du côté punk de 1976. Non sans avoir rappelé, pour la petite histoire, que c'est Lee Brio, le chanteur de Dr. Feelgood, qui va prêter 400 livres sterling pour créer Stiff Records, le label indépendant sur lequel sera enregistré ce premier single punk british. Le pub rock a donc littéralement financé les punks anglais. Is she really going out with him?
Like a stormy sea. I don't know why, I don't know why. I guess these things have gotta be. I've got a new rose, I've got a good. Yes, I knew that I always would. I can't stop to mess around. I got a brand new rose in town. See the sun, it shines. Don't get too close or it'll burn your eyes. Don't you run away that way. You can come back another day. I got a new rose, I got a good. Yes, I knew that I always would. I can't stop to mess around. I got a brand new rose in town. I never thought this could happen to me. I feel so strange. Oh, why should it be? I don't deserve somebody this great. Oh, I better go, or it'll be too late. Oh. I like a stormy sea. I don't know why, I don't know why. I guess these things have gotta be. I got a new rose, I got a good. Yes, I knew that I always would. I can't stop to mess around. Like a brand new rose in town.
D4B. En immersion au zoo de la Palmyre. Et c'est un nouvel épisode dans cette série documentaire sur le zoo de la Palmyre. Nous retrouvons Florence Perroux qui nous a accompagné de l'équipe D4B tout au long de ses reportages au zoo. Florence Perroux qui est, je le rappelle, responsable communication et médiation scientifique du zoo de la Palmyre. Donc nous allons la retrouver. Elle nous parle des naissances qui ont eu lieu cette année en 2026. Je précise que le reportage a été enregistré en juin 2026. Et pour cet épisode, il y aura donc deux reportages, donc là un focus particulier sur les naissances, puis nous aurons un deuxième reportage avec Thomas, vétérinaire, qui nous parlera du training ou entraînement médical. Mais tout de suite, les naissances 2026 avec Florence Perroux.
Alors cette année, c'est vrai qu'on est chanceux et les visiteurs vont être chanceux parce qu'on a eu donc deux jeunes tigres qui sont nés en fin d'année dernière, décembre 2025, donc ils ont un petit peu plus de 6 mois. Et ça faisait longtemps longtemps qu'on n'avait pas eu de naissance de tigre aux eaux. Parce que la dernière naissance remonte au début des années 80, donc ça faisait un petit moment. Alors on a eu des tigres pendant très longtemps, mais qui n'étaient plus en situation de reproduction. Et ensuite, le temps de faire des travaux, le nouvel enclos, accueillir un nouveau couple l'année dernière, et quelques mois après, déjà des accouplements et déjà une première naissance avec un élevage parfaitement réussi par la mère. Donc deux jeunes mâles tigres que les visiteurs peuvent voir gambader. Dans l'enclos, donc c'est sympa. Alors c'est vrai qu'en cœur de journée, souvent, ils se reposent, mais le matin et le soir, ils sont très actifs. Donc il faut viser l'enclos plutôt le matin quand on arrive aux zoos, ou bien fin d'après-midi.
Et ces tigres, ils partiront après dans d'autres zoos, probablement ?
Sûrement. Non, effectivement, ils ne resteront pas chez nous. Ce sont deux mâles, donc ils ne pourront pas rester en présence de leur père. Puisque ça pourrait évidemment susciter des conflits, et puis aussi pour des questions de génétique, hein, pas pour éviter toute reproduction avec leur mère. Donc ils partiront d'ici à ce qu'ils soient indépendants. Donc dans la nature, les tigres sont indépendants et quittent en général leur mère entre 18 et 20 mois. Donc là, on a encore un petit peu de marge. On pourra peut-être les garder un tout petit peu plus si ça se passe bien, mais guère davantage.
Et alors les autres espèces, il y a eu plein d'autres naissances.
Alors les dernières naissances, on a bien sûr Justine, notre girafon qui a 3 mois, qui est né au mois de mars. On a eu un petit chimpanzé aussi qui est né il y a deux mois. Donc là, si les visiteurs sont bien attentifs, ils pourront le voir dans les bras de sa mère. On a eu deux lémuriens aussi qui sont nés, des jumeaux lémur noirs. Donc là aussi, on est content parce que c'est une espèce qui est arrivée au parc en fin d'année dernière. Avec un couple jeune et formé chez nous, et donc qui a eu ses premiers bébés, et l'élevage se passe aussi super bien. Donc une belle réussite pour le zoo. On a eu récemment aussi un petit tamarin lion à tête dorée qui se porte bien. Et puis on est aussi en pleine saison de reproduction des oiseaux. Donc on a déjà eu un petit aperçu à la nursery avec Maxime. On a vu plusieurs jeunes cigognes ou marabouts en élevage. Mais on attend aussi des naissances sur nos colonies de flamants roses, les flamants de Cuba à l'entrée, les flamants du Chili au cœur du parc. Donc oui. Toujours beaucoup de naissances, entre 100 et 200 chaque année. Ça dépend des années, ça dépend des recommandations de reproduction que l'on reçoit des différents coordinateurs. Donc parfois, on peut en avoir un petit peu plus une année, un petit peu moins l'année suivante si on a davantage de recommandations de non-reproduction. Mais il y aura toujours des naissances à voir aux zoos, quelle que soit la période.
Et c'est joyeux, mais ça peut être du stress aussi pour les soigneurs, les vétos, les tout le monde.
Bah pour toutes les équipes, oui, c'est toujours du stress. Alors c'est vrai que chez certaines espèces ou des femelles qui ont déjà élevé avec succès par le passé, on est rarement très inquiet parce qu'on sait que ça se passe bien. Par contre, quand on a des femelles qui sont gestantes pour la première fois et qui vont donc donner naissance à un petit pour la première fois, là on est toujours un petit peu plus tendu. Parce que chez les femelles qu'on appelle donc primipares, qui n'ont jamais encore eu de petits, le premier élevage n'est pas forcément réussi. Donc on peut avoir des mamans qui ne savent pas forcément bien s'occuper du bébé. Donc oui, on est toujours un petit peu plus nerveux dans ces cas-là. Mais là, on doit dire qu'on est vraiment content, puisque notre femelle tigre était primipare, notre femelle chimpanzé, qui a eu son bébé, était primipare, notre femelle lémurien était primipare, et pour les trois, ça s'est très bien passé. Donc, que demander de plus, en fait ?
Merci Florence Perroux pour ces explications très intéressantes sur les naissances aux zoos de la Palmyre. Mais passons à un petit focus sur le training ou entraînement médical que les vétérinaires et les soigneurs utilisent aux zoos de la Palmyre afin de faciliter les soins aux animaux. Explication au micro de D4B avec Thomas, vétérinaire.
Le training, ça va être de l'entraînement. Et ensuite, on va parler de training médical, en effet, quand ça va être de l'entraînement plus aux soins médicaux, tourné vers le médical. Mais déjà, en fait, le training peut servir rien que dans la gestion des animaux. Par exemple, un animal qui reconnaît une cible ou qui va reconnaître une consigne, bah, on va pouvoir le gérer plus facilement. Par exemple, bah, pouvoir le déplacer d'une loge à un autre, d'un enclos à un autre, pour faciliter en fait tout simplement la gestion, qui peuvent être, déplacer un animal d'un enclos à l'autre, nettoyer une loge, le mettre en contact avec un autre animal. Donc rien que déjà, en fait, le travail coopératif où l'animal travaille en coopération avec le soigneur, ça va permettre de faire l'ensemble de ces manipulations sans stress pour l'animal. Et ensuite, en effet, plus spécifiquement au niveau médical, on va avoir des entraînements dont le but va être de pouvoir procurer des soins ou en tout cas vérifier l'état de santé de l'animal sans intervenir, donc c'est-à-dire sans, pour les plus petits, avoir à les capturer ou avoir à les anesthésier. Donc par exemple, ça va commencer par dépeser. Par exemple, on parlait des ouistitis tout à l'heure, il y a un certain nombre de ouistitis qui ont l'habitude de venir sur une balance où les soigneurs leur distribuent de la nourriture à la seringue et comme ça on peut les peser. Et là on est en face des éléphants, donc il y a une balance dans un couloir qu'ils empruntent tous les jours et donc ils vont passer sur cette balance et être pesés pareil tous les jours. Donc ça c'est une première information de santé, plus que de pouvoir dire on le trouve gros, on le trouve maigre, on va essayer de lui donner des échelles avec des chiffres allant de 1 à 5 sur 5 et de dire bah, 5 il est obèse, 1 il est maigre, bah, là on aura vraiment une pesée objective. Avec bah, aujourd'hui c'est plus 150 kilos par ailleurs. Attention là il a perdu 500 kilos en 2 mois, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Donc ça c'est une première donnée médicale qui est très intéressante. Et ensuite on va pouvoir imaginer toutes sortes de choses en fonction des espèces. Par exemple sur les éléphants où on sait qu'il y a un soin particulier à donner au niveau des pieds, donc ils sont habitués à donner l'ensemble de leurs 4 pattes pour que les soigneurs puissent bah, faire du parage au niveau des pieds, faire des soins des onglons. Ils ont aussi l'habitude par exemple d'ouvrir la bouche pour pouvoir contrôler leurs dents. Il y a une pousse dentaire qui se fait en continu tout au long de la vie de l'animal. Donc contrôler bah, que cette pousse dentaire se fait bien, savoir si les dents sont en bonne santé, s'il n'y a pas de caries, s'il n'y a pas de gêne à cet endroit-là. On va pouvoir avoir par exemple des désensibilisations pour pouvoir faire des injections au travers des grilles pour éviter les fléchages. Donc en fait à partir de là tout un tas de choses peut se faire. Et donc on peut aller en effet jusqu'à injecter des produits à un animal, faire une prise de sang, éventuellement avoir la coopération d'un animal pour faire des soins locaux sur une petite plaie, des choses comme ça. Et donc ça, bah, ça va éviter du stress pour l'animal et de devoir l'anesthésier ou le capturer à chaque fois. Donc en effet, le travail en coopération, donc le medical training, c'est très important et c'est un des axes sur lesquels on travaille actuellement.
Oui, et puis garantir la sécurité des soignants aussi, surtout.
Et bien aussi garantir la sécurité des soigneurs. En effet, c'est des manipulations qui se font sur des animaux vigiles. Donc quand on parle de ça, par exemple, sur les éléphants, ça va être à chaque fois en contact protégé au travers de barreaux où ils vont venir toucher des cibles à droite, à gauche, présenter avec des gestes tel ou tel antérieur, pouvoir ouvrir la bouche. Mais en effet, c'est tout des choses qui se font en contact protégé, en toute sécurité, à la fois pour l'animal et à la fois pour les gens qui interviennent autour.
Quand on travaille surtout avec des animaux qui vont être là très longtemps, comme les éléphants, il doit y avoir un certain affect qui se crée avec les animaux.
Oui, bien sûr. Alors, en effet, ça sera plus le cas avec les soigneurs parce qu'ils ont un nombre d'animaux un petit peu plus restreint. Nous, c'est vrai qu'on s'occupe de l'ensemble du cheptel du parc. On a des relations qui sont bonnes avec certains animaux, notamment ceux avec lesquels on fait du training. Avec certains animaux, il peut parfois y avoir des réactions un peu plus de peur, en fait, parce que bah, on est assimilé quand même à du soin et donc à notre présence potentiellement quand ils sont malades. Donc en effet, on aura des soins un peu moins privilégiés que les soigneurs et ceux qui connaîtront le mieux les animaux et qui vont être avec eux au quotidien, c'est vraiment les soigneurs. Nous, on va avoir plus un panel un peu plus large sur l'ensemble des animaux, mais moins cette relation, on va dire, moins de confiance de l'animal en notre parc envers les soigneurs, très clairement.
Ici, dans les salariés, tout ce qui touche aux animaux, les soigneurs, les vétérinaires, ne sont pas des saisonniers. Ce sont des gens qui sont là à l'année et les saisonniers n'interviennent pas auprès des animaux.
Oui, bien sûr, on est là toute l'année. Et puis, donc en effet, les gens qui restent plusieurs années et puis qui travaillent avec les animaux bah, vont les connaître très bien, vont nouer des relations. Et puis, c'est pour ça aussi que nous, d'un point de vue médical, ce sera très intéressant pour nous parce qu'ils les voient évoluer tous les jours, toute l'année. Donc, ils seront capables de détecter un tout petit changement de comportement qu'une personne lambda ne serait pas capable de voir parce qu'elle ne connaît pas parfaitement le comportement de l'animal. Ça peut être un temps un peu plus long à mettre pour rentrer dans un bâtiment, ça peut être une démarche un peu anormale ou d'habitude il vient manger en premier, là il est venu en dernier. Donc tout ça c'est des points vraiment importants et ça c'est vraiment, comme on en parlait tout à l'heure, le travail d'équipe entre soigneurs et vétérinaires qui permet la bonne prise en charge médicale des animaux.
Travail d'équipe.
Exactement.
Oui. Merci Thomas.
Merci à vous.
C'était En immersion au zoo de la Palmyre. Retrouvez-nous pour un prochain épisode sur Radio D4B. En immersion au zoo de la Palmyre.
C'est la vie de poème, la vie sans façon, la vie de garçon,
la vie de patapatachon.
C'est la vie que l'on aime quand on a 20 ans, mais que nous menons plus longtemps. Nous n'avons pas de galette, mais qu'est-ce que ça fout? On fait des dettes partout, partout. Et l'on chante quand même la nuit dès le jour. Vive la bohème et l'amour.
cette mansarde des villes où l'on a deux ateliers.
Nous sert aussi de cuisine et de chambre à coucher.
Nous n'y faisons le ménage qu'une fois tous les 6 mois.
Le jour où l'on déménage à la cloche de bois.
Chaque fois qu'une conquête vient m'accompagner.
Toute la nuit je m'embête seul dans l'escalier.
Mais tu deviendras, j'espère, plus connu que Picasso.
Et beaucoup plus populaire que Victor Hugo.
Saint-Saint, c'est la vie de poème, la vie sans façon. La vie de garçon, la vie de patapatachon. C'est la vie que l'on aime quand on a 20 ans. Et que nous menons plus longtemps. Nous n'avons pas de galette, mais qu'est-ce que ça fout. On fait des lettres partout. Partout, elle chante quand même la nuit et le jour. Vive la bohème et l'amour. Oh, 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 oh,
quelle vie alors.
C'est la vie de bohème.
Non, on remet ça, hein, c'est trop joli.
Allons-y.
Allez, chef.
1, 2.
C'est la vie de poème, la vie sans façon. La vie de garçon, la vie de patapatachon. C'est la vie que l'on aime quand on a 20 ans. Mais que nous menons plus longtemps. Nous n'avons pas de galette, mais qu'est-ce que ça fout. On fait des lettres partout, partout. Et on chante quand même la nuit et le jour. Vive la bohème et l'amour. Oh, 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 oh.
Le jour gèle, la pierre fend, tous les marins sont en mer. Regard tendre et cœur ouvert. Cœur ouvert et regard tendre, son odeur est dans la chambre. Mon homme est parti par la rivière. Comment rendre les nuances de son reflet dans l'eau claire sans en voiler le mystère. Comment peindre l'évidence, la nudité, sa présence, la lune allongée dans la clairière. Cette beauté sobre de la Bretagne en hiver, la pudeur du bleu contre le vert. C'est le soleil d'octobre, la bonté qui te laisse plaire discrète, l'odeur de la bruyère. Il a cette chose fine, forte, infiniment digne. Il admire sans complaire le fruit, la feuille de vie, chaque variante infime, sensible, le tremblement de l'air. Mon homme est-il nature forte ou fragile? Éternelle ou passagère, tous les mots sont inutiles, la blessure est difficile, la fêlure est nécessaire. sa table d'abondance, par les bouteilles qui dansent, par le vin qu'il t'a offert, par la voix d'un chanteur noir, par l'écho d'une guitare, par ce qu'il a découvert. Il effleure à sa manière ce qu'il n'ose pas te dire, ce qui ne peut pas se taire. L'amour ne peut pas se taire. Le jour gèle, la pierre fend, tous les marins sont en mer, cœur ouvert et regardant, mon homme est parti par la rivière.
C'est son nom. On l'appelle les copains comme cochon.
Des 4B.
Oh,
chaque